Une chanson dont les anciens se souviennent peut-être, et c'est pourquoi j'ai interrompu l'indicatif habituel de contre-histoire, puisque nous sommes aujourd'hui dans un chroniquard. Voilà, je vais essayer de vous passer ça.
Bien triste, on m'oblige à chanter faux. Des gens qui jouent les pianistes au lieu de jouer du piano. Bien posé sur la moquette, au-dessous un mauvais tableau, je m'ennuie. Sur mes roulettes, mon clavier fait le gros dos. Moi, je rêve quelquefois d'un enfant nommé Zifra, d'un géant nommé Chopin qui me prenne et qui m'arpège. Et j'entends tout. Le solfège. Je suis un piano bien triste. J'ai un cœur d'accordéon, de violon sans violoniste, et je pleure des sanglots longs. Moi, ça me démoralise, ces enfants propres et polis, massacrant ma pauvre Élise pour tuer leur mercredi. Moi, je rêve quelquefois d'un grand soir, de grands galas. Et d'un grand trac au fond des yeux de celui qui me caresse. Et je ne suis plus de bois, et j'exulte sous ses doigts. Et je suis l'amour, le feu, la musique et la tendresse. Je suis un piano bien triste, rien qu'un meuble en acajou. Mon père était ébéniste, moi je ne suis rien du tout.
Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous, toutes, à vouloir devenir auteurs, autrices ? L'artiste a un besoin quasi vital de s'exprimer, de communiquer pour être compris. Compris, reconnu. C'est un besoin fondamental pour chacun de nous. C'est lié, sans doute, au fait que chaque être est unique et que les quelques milliards que nous sommes nous donnent le vertige. Il nous faut bien signaler notre singularité pour ne pas sombrer dans la négation de nous-mêmes. Mais ce besoin d'être reconnu et compris, est bien plus impérieux chez l'artiste. Il y va de sa vie même. Si, si. Nous supportons tous le métro, boulot, dodo et autres médiocrités plus ou moins bien comme étant l'humaine condition. Le travail qui nous prend un tiers de la vie peut aussi être une passion. Et l'amour, les enfants, l'art des autres nous apporte l'équilibre. En matière d'art plastique, le phénomène d'interprétation par l'amateur d'art élude parfois la question. Celui qui acquiert une œuvre, y voyant souvent quelque chose de complètement différent de ce que l'artiste y a mis. Et tout le monde est content. Mais l'artiste ignoré, nié, bafoué, peut en mourir. Ou devenir psychopathe comme Hitler. Et se plongeant dans la solitude destructrice est bien plus fréquent en littérature parce que là, pas de quiproquo heureux. C'est écrit noir sur blanc. Pas d'erreur salvatrice possible. Alors, l'écrivain s'attachera à être d'abord lisible, clair, accessible au public auquel il s'adresse. Ce qui n'exclut pas du tout la profondeur du propos. Voir Marguerite Duras, avec, par exemple, sa dramatique barrière contre le Pacifique. Chaque mot simple, nu et lourd, et coupant comme un rasoir, et crée une ambiance impossible à oublier. Alors je vous en donne un petit bout, vous le prendrez comme vous voulez, mais c'est un exemple trop mince.
Les quartiers blancs de toutes les villes coloniales du monde étaient toujours, dans ces années-là, d'une impeccable propreté. Il n'y avait pas que les villes. Les blancs aussi étaient très propres. Dès qu'ils arrivaient, ils apprenaient à se baigner tous les jours, comme ont fait des petits-enfants, et à s'habiller de l'uniforme colonial, du costume blanc, couleur d'immunité et d'innocence. Dès lors, le premier pas était fait. La distance augmentait d'autant. La différence première était multipliée, blanc sur blanc, entre eux et les autres, qui se nettoyaient avec la pluie du ciel et les eaux limoneuses des fleuves et des rivières. Le blanc est en effet extrêmement salissant. Aussi les blancs se découvraient-ils du jour au lendemain plus blancs que jamais, baignés, neufs, siestant à l'ombre de leur villa, grands fauves à la robe fragile. Dans le haut quartier n'habitaient que les blancs qui avaient fait fortune. Pour marquer la mesure surhumaine de la démarche blanche, les rues et les trottoirs du haut quartier étaient immenses. Un espace orgiaque, inutile, était offert au pas négligent des puissantes au repos. Et dans les avenues glissaient leurs autos caoutchoutées, suspendues dans un demi-silence impressionnant. Tout cela était asphalté, large, bordé de trottoirs plantés d'arbres rares et séparé en deux par des gazons et des parterres de fleurs, le long desquels stationnaient les files rutilantes des taxis torpédos. Arrosées plusieurs fois par jour, vertes, fleuries, ces rues étaient aussi bien entretenues que les allées d'un immense jardin zoologique où les espèces rares des blancs veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut quartier était leur vrai sanctuaire. C'était au centre seulement qu'à l'ombre des tamariniers s'étalaient les immenses terrasses de leur café. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls les garçons de café étaient encore indigènes, mais déguisés en blanc. Ils avaient été mis dans des smokings, de même qu'auprès d'eux les palmiers des terrasses étaient en peau. Jusque tard dans la nuit, installés dans des fauteuils en rotin derrière les palmiers et les garçons en peau et en smoking, on pouvait voir les blancs suçant Pernod, whisky soda ou Martel Perrier, se faire, en harmonie avec le reste, un foie bien colonial. La luisance des autos, des vitrines du macadam arrosé, l'éclatante blancheur des costumes, la fraîcheur ruisselante des parterres de fleurs faisaient du haut quartier un bordel magique où la race blanche pouvait se donner, dans une paix sans mélange, le spectacle sacré de sa propre présence. Les magasins de cette rue, mode, parfumerie, tabac, américain, ne vendaient rien d'utilitaire. L'argent même, ici, devait ne servir à rien. Il ne fallait pas que la richesse des blancs leur pèse. Tout y était noblesse. C'était la grande époque. Des centaines de milliers de travailleurs indigènes saignaient les arbres des 100 000 hectares de terre rouge. Se saignaient à ouvrir les arbres des 100 000 hectares de terre, qui par hasard s'appelaient déjà rouges, avant d'être la possession des quelques centaines de planteurs blancs aux colossales fortunes. Le latex coulait, le sang aussi. Mais le latex seul était précieux, recueilli, et recueilli payait. Le sang se perdait. On évitait encore d'imaginer qu'il s'en trouverait un grand nombre pour venir un jour en demander le prix. Le circuit des tramways évitait scrupuleusement le haut quartier. Ça aurait été inutile d'ailleurs qu'il y eût des tramways dans ce quartier-là de la ville où chacun roulait en auto. Seuls les indigènes et la pègre blanche des bas quartiers circulaient en tramway. C'était même, en fait, les circuits de ces tramways qui délimitaient strictement l'Éden du haut quartier. Ils le contournaient hygiéniquement, suivant une ligne concentrique dont les stations se trouvaient toutes à 2 kilomètres au moins du centre. C'était encore à partir de ces trams bondés qui, blancs de poussière et sous un soleil vertigineux, se traînaient avec une lenteur moribonde dans un tonnerre de ferraille, qu'on pouvait avoir une idée de l'autre ville, celle qui n'était pas blanche. Ancien hors-service de la métropole, conditionné par conséquent pour les pays tempérés, ces trams avaient été rafistolés et remis en service par la mère patrie, dans ses colonies. L'indigène qui les conduisait arborait au petit matin sa tenue de conducteur. Il se l'arrachait du corps vers les 10 heures, la posait à côté de lui et finissait invariablement son service torse nu, ruisselant de sueur, et à raison d'un grand bol de thé vert à chaque station. Cela afin de transpirer et de se rafraîchir au courant d'air qu'il s'était assuré en brisant, avec sang-froid, dès les premiers jours de sa prise de service, toutes les vitres de sa cabine. De même, étaient d'ailleurs tenus de faire les voyageurs avec les vitres de leur wagon, pour en sortir vivants. Ces précautions, une fois prises, les trams fonctionnaient. Nombreux, toujours comble, ils étaient le symbole le plus évident de l'essor colonial. Le développement de la zone indigène et son recul toujours croissant expliquaient l'incroyable succès de cette institution. De ce fait, aucun blanc digne de ce nom ne se serait risqué dans un de ces trams, sous peine, s'il avait été vu, d'y perdre la face, sa face coloniale. Puis il creva.
Duras a fait, avec ce bouquin et les autres aussi, elle a fait un concentré d'ambiance. Et en fait, quand j'ai repris le livre, hier, j'avoue, je pouvais pas le lâcher. Et en fait, cette impression, cette très lourde ambiance, eh bien, c'est la synthèse de tout le livre. C'est aussi la leçon de Racine dont on se moque souvent. On se moque de la pauvreté du vocabulaire quelque peu répétitif, sans doute. Mais le maniement magistral de l'Alexandrin donne à ses tirades un mouvement, un envol, une profondeur à couper le souffle. Souvenez-vous. Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle qui fut pour tout le peuple une nuit éternelle. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrés à la lueur de nos palais brûlants, sur tous nos frères morts se faisant un passage, et de sang tout couvert, échauffer le carnage. Oui, les mots sont très simples. Mais ce principe garantit l'accès au lecteur et à l'éditeur. Quand on a appliqué les principes poétiques de l'Alexandrin et de la poésie en général, on va y revenir. La littérature enfantine est bien sûr capitale dans la formation des jeunes. Il faut que les enfants lisent et y prennent goût, pour deux raisons majeures. Il est capital de développer leur imagination, et c'est le rôle d'un texte à leur portée, qui les fera rêver de pays, de paysages, de situations, de personnages, qui les accompagneront et leur feront créer leur univers intime. Et ces textes leur transmettront des valeurs qui seront déterminantes pour toute leur vie souvent, d'autant plus qu'ils les auront découvertes, en quelque sorte, eux-mêmes. Mais le style et le vocabulaire devront le permettre. Il peut paraître, à certains, pédagogique et enrichissant, de truffer ces textes de vocabulaire riche, voire mystérieux, ce qui devrait théoriquement construire la culture de l'enfant et son mode d'expression. Hein? Mais l'enfant ira rarement lui-même au dictionnaire, sauf à y être entraîné par une initiation soignée, par exemple la recherche ludique de gros mots, payant en bon point ou en carambar. Résultat garanti. Oui, mais ça, c'est pas souvent. Le recours aux parents peut être décourageant. L'appel au secours est une entrave à la lecture. Un temps d'arrêt risqué, ou pire, un obstacle fatal. Si les parents ne peuvent pas répondre. C'est plus souvent le cas qu'on ne l'imagine. Au pire, ses parents piégés risquent de ne plus donner de livres aux enfants, de peur de révéler leurs propres lacunes, ou au moins par crainte de perdre du temps en explication, de ne plus pouvoir compter sur ce moyen pour tenir les enfants tranquilles. Et ça risque de finir en TF1 ou en jeu vidéo. Le risque est très important de détourner l'enfant de la lecture devenue ainsi rebutante. Alors que le petit prince, lumineusement simple et limpide, est pourtant si riche de vraies philosophies, devenue accessible et formatrice. On va revenir à un exercice de piano.
La la la, la la la. Ma voisine ne sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon, depuis le temps que tu entends ça, gna gna gna, gna gna gna. Est-ce que ça ne te saoule pas, la la la, la la la. Mais qui était cette Élise qui défrise nos pianos, qui s'enfin se gargarise et se grise trémolo? Dis Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton Élise tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix? La la la, la la la. Comment croire qu'Élise écoutait sans arrêt, ce machin qui vraiment ne me fait pas marrer, pas marrer. Oui, mais Élise, elle aimait ça qu'on lui redise blablabla. Bla, bla. Pourquoi écrire avec un piano, des petits marteaux, les petits marteaux? Quand c'est si simple avec un stylo, et puis des mots, rien que des mots. Mais cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig. S'il envoie ses grosses bises, elle les veut en musique. Ah si seulement elle avait pu se taper le facteur, on n'aurait pas eu à se farcir tous ces doubles soupirs et tous ces ne m'oubliez pas. S'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écopé ça. La la la, la la la. Chaque jour à l'heure du courrier, et allez, il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mes chères Élise, il serait bon que vous accusiez réception. Qui sait, mais si vous lui répondiez par courrier recommandé, elle pourrait apprendre par cœur, enfin le gai laboureur. Je sais que je m'en lasserai, mais ça là là, mais ça là là, mais ça me changerait.
Revenons à la littérature. Pour la littérature en général, le principe de clarté reste valable, bien entendu. Et donc, je m'en vais vous narrer quelques expériences mémorables. Un candidat à la gloire littéraire, mais heureusement pour lui déjà excellent dessinateur, m'expliquait qu'il faisait pour écrire ses fables des recherches techniques, sémantiques et étymologiques très poussées. Ce qui n'avait pour conséquence que d'obscurcir complètement ses textes, de nuire au rythme et surtout de sembler mépriser le lecteur dont le texte paraissait dénoncer l'ignorance. Ça avait un petit air de dire « T'as vu comment que c'est que je cause ?» Certains aussi font sans crainte ni scrupule des emprunts aux auteurs confirmés, romanciers ou poètes. Ainsi, une dame très gauche caviar, rencontrée dans une réunion de créateurs où je m'étais faufilée à la recherche d'invités pour chroniquard, m'a complètement sidérée. Elle exhibait à ce dîner, en auberge espagnole auquel elle nous avait conviés, un gros pavé sous son nom, qui reprenait toute l'intrigue de vol au-dessus d'un nid de coucou. Certains éditeurs manquent vraiment d'informations. Un autre génie de la triche m'avait utilisé, pour faire lire à l'antenne de jolis morceaux qu'il s'attribuait. Je découvris par la suite qu'ils appartenaient à un rappeur macho au plus haut point, qui ne risquait pas, bien sûr, de faire partie de mon petit bagage. J'ai peut-être perdu l'estime de ceux qui s'en souviennent, mais le monsieur a perdu l'accès à ce micro, qu'il réclamait pourtant il n'y a pas très longtemps. En littérature, comme en art plastique, il y a des techniques pour éviter de foncer dans le mur. La première, on en a déjà parlé, c'est le gueuloir, cher à Gustave Flaubert. C'est l'hygiène basique de tout écrivain qui se respecte lui-même, avant même de pouvoir respecter ses lecteurs. Ensuite, les règles de structure poétique, ça peut pas faire de mal à la prose. Ça rend le texte plus facile à mémoriser et plus persuasif à la fois, le rythme de la phrase étant le plus important. Ah, pourquoi? Parce que les 12 pieds de l'alexandrin correspondent à la capacité pulmonaire courante et permettent donc une lecture apaisée, modulée en fonction du sens du texte. Il n'est besoin que d'écouter Guillaume Gallienne, par exemple, qui fait vivre avec bonheur tant de textes classiques ou inédits, sur une radio dont nous nous inspirons souvent. Et puis, si vous n'êtes pas allergique à Anne Sylvestre, je vais peut-être recommencer un texte sublime, à mon avis.
C'était une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.
Pas facile de reprendre le micro. Bien sûr, quand on est à l'aise dans le choix des mots, on pourra faire couler sans accroc les mots. On pourra aller jusqu'à 14, 15 ou 16 syllabes. La Fontaine l'a fait. Et c'est ce qui donne à ces fables la sonorité et le rythme authentique du récit, allié en plus à toutes les autres astuces de l'art poétique. L'alternance de vers courts avec des alexandrins permet de créer une animation difficile à suggérer si on reste enfermé dans le moule rigide de la poésie classique. Par exemple, non, ce n'est pas la première fois que l'on prend un bouc émissaire pour dissimuler sous le bois de son bûcher génocidaire les ruines de notre monde décadent que le bourreau servile cachera au monde un moment. Dans toute l'Europe, la chasse est ouverte. Garde à vue, violence, humiliation, insultes, expulsions, coups, provocations. Ils sont venus ici, le ventre vide, cherchant pour leurs enfants des matins moins arides. Et Gilles Servat, que je vous fais écouter quelquefois, vomit sa colère en étirant ses vers ou en criant une prose hachée. C'est beau, une colère de Gilles Servat. C'est la sincérité même qui dénonce les scandales de l'exploitation capitaliste ou les racines du racisme rampant. Par exemple, je ne hurlerai pas avec les loups. La dignité de la terre est entre nos mains. Partout s'assemblent et s'organisent des hommes et des femmes qui refusent la rigidité d'un monde cadavérique. Partout, de nouvelles formes d'action paraissent pour en finir avec l'économie coloniale, brûler les racines de la misère, court-circuiter les multinationales cachées derrière les dictatures. Abattre les murailles entre les races, pulvériser les temples du profit, déchausser la médecine, reprendre les terres, diversifier les cultures, produire sur place des médicaments simples, abolir les tortures, apprendre à lire, ouvrir les prisons, donner la parole aux pauvres, écouter ce qu'ils ont à dire, partager la terre entière chaleureusement. Enfin arrive le temps du concret. Enfin on cesse de faire entrer de force la réalité dans le moule des idées. Enfin arrive le temps du respect. Difficulté suprême. Laissez libres les pensées différentes. Que chacun regarde en soi. Que chacun regarde en soi. La bête est là. Tapie, sournoise, prête à tout dévorer. L'hydre du fascisme est en chacun de nous. Chaque soir, je la décapite. Chaque nuit, ses têtes repoussent dans ma tête. Parfois, elle me soumet. Parfois, je suis vainqueur. En moi, l'intolérance, moisissure fadasse. Je ne vaincrai jamais définitivement. Mais sans relâche, je décapiterai le monstre. Jamais je ne prendrai la Kalachnikov pour imposer mes idées, ma loi ou ma croyance. J'ai trop peur d'avoir tort. Encore faut-il que ces textes soient prononçables. On se cogne souvent aux consonnes dentales, T, D, au crochet fatal des que à répétition. Et la sifflante S peut aussi poser problème. C'est parfois une difficulté des politiques qui se prennent la langue dans des improvisations dissonantes. Résultat quelquefois comique. Et on se dit parfois que la réussite politique tient davantage à la maîtrise du vocabulaire qu'au contenu fondamental du discours. Alors après les dentales, il y a les consonnes mouillées, comme on dit. L, V, F, J, qu'on peut dire plutôt comme en primaire, le, ve, fe, je, etc. Et leur usage répété peut sculpter la phrase avec bonheur, en allitération. Et l'air a l'air d'être un soupir d'automne, tant il fait doux par ce soir monotone où se dorlote un paysage lent. Je vous avoue que j'ai pas vérifié qui était l'auteur. Je pense que c'est peut-être Verlaine, ça lui ressemble. Il y a tellement longtemps que j'ai ça dans la tête que j'ai même pas besoin d'y mettre une étiquette. Les allitérations à coups de sifflante peuvent être aussi très éloquentes. On se souvient tous du fameux « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» Échantillon tragique de la folie d'Oreste qui donne la chair de poule. Mais il y a aussi le bon usage des coupures dans la phrase ou dans le vers. Coupures capitales aussi, que ce soit des simples césures dans une énumération ou l'hémistiche du milieu du vers. Elles permettent de reprendre son souffle, de moduler la phrase en fonction du sens. Si on les supprime, le texte perd souvent sa signification. D'où l'intérêt d'une bonne ponctuation, parfois oubliée. Et quelquefois, les poètes la suppriment complètement. Le risque n'est pas moindre. Cette option reste délicate, très délicate, à utiliser. Maintenant, on peut aussi déplacer un mot ou plusieurs mots, quand bien sûr le sens ne s'altère pas. Ça permet de rétablir le rythme idéal ou d'échapper à La nécessité d'une rime difficile. On se souvient tous de la démonstration que Molière donne de cette astuce dans l'exercice épouvantable qu'il fait faire à M. Jourdain. « Belle marquise, mourir, vos beaux yeux me font d'amour. » Belle marquise d'amour mourir, vos beaux yeux me font d'amour, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir. Enfin bon. Sans en arriver jusque-là, ça rend bien service souvent. Alors, si vous voulez vous amuser à triturer, à jongler avec ces petites recettes qui sont basiques, qui ne sont pas complètes, hein, je ne vous ai pas fait la liste in extenso, parce que ça demande aussi des démonstrations, des illustrations qui nous entraîneraient très loin, et puis qui m'auraient fait faire un très gros travail. Alors, ce que vous pouvez faire pour vous amuser, voir un peu comment ça peut s'articuler, comment ça peut marcher, comme on dit ici, vous pouvez faire dans un tableau, dans une feuille que vous mettez de préférence, comme on dit à l'italienne, donc en largeur, en grande largeur, vous pouvez faire une colonne. Et dans la première colonne, vous mettez ce qu'on appelle l'idée force, ce que vous voulez absolument faire passer dans le texte ou dans le poème. Hein. Disons que ça, c'est plutôt une technique poétique. Alors, vous mettez votre idée force. Bon. À côté, vous mettez dans la colonne suivante, vous mettez en vrac, pêle-mêle, tous les mots qui vous passent par la tête, tous les mots qui se rattachent à cette idée force, qui l'illustrent, qui la tempèrent, qui la complètent, etc. Voilà. Et puis à côté encore, vous essayez de mettre des synonymes de ces mots-là. Évidemment, dans la colonne des mots en vrac, vous aurez mis un mot par ligne, parce que sinon ça ne vous servira à rien, vous aurez tout un bazar. Bon. Alors, dans la colonne des mots en vrac, donc un mot par ligne, tous ces mots étant rattachés par leur sens à l'idée force que vous avez mise dans la première colonne. Voilà. Dans la troisième colonne, donc, j'y reviens, c'est la colonne des synonymes. Et vous allez mettre tous les synonymes que vous connaissez correspondant aux mots en vrac que vous avez mis dans la deuxième colonne. Ça y est, on suit là-bas au fond ? Bon. Et puis maintenant, le vrai travail va commencer. Vous allez chercher des rimes avec des mots qui correspondent, bien sûr, à cette idée force. Et je m'aperçois, catastrophe, j'ai oublié mon dictionnaire de rimes. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, je vous avais promis de vous amuser et de vous préparer un week-end de rigolade. Eh bien, honte à moi, j'ai oublié mon dictionnaire de rimes. Alors, je l'ai oublié parce que je m'en sers jamais. Oui, c'est très prétentieux de dire ça, mais pourtant c'est vrai. J'en ai besoin. Mais chaque fois que je l'ouvre, eh ben, je trouve le mot qui me convient avant que le livre ne me le donne. Ben oui, j'habite trop loin pour aller le chercher. Alors, je vous ferai peut-être une autre démonstration avec la semaine prochaine, dans la petite demi-heure. Fourre-tout que j'ai à la fin de cette émission, je vous ferai ça. Oui, il faut que je le fasse parce que c'est un vrai bonheur. Un dictionnaire de rimes dont on découvre toutes les possibilités farceuses et cochonnes et érotiques et apéritives et tout ce que vous voulez. Il faut s'offrir ce plaisir-là, quoi, voilà. Alors, toutes mes excuses, et puis, comme en plus, j'avais calculé avec le dictionnaire de rimes, eh bien, vous allez récupérer quelques textes, quelques chansons plutôt, d'Anne Sylvestre, puisque j'en ai fait provision, et j'espère que vous me pardonnerez d'empiéter directement sur la demi-heure de liberté sonore. On retrouve Anne Sylvestre pour une chanson qui n'est peut-être plus exactement d'actualité, mais qui a peut-être fait bouger les choses.
Un bateau s'est cassé, Baptiste, nous n'irons plus sur les rochers. Les gens de la côte sont tristes, ils ont le cœur tout arraché. Un bateau s'est cassé, il sombre, bien sûr ce n'est pas le premier. Mais avec lui s'approche l'ombre, nous n'irons plus jamais pêcher. Un bateau s'est cassé, Gaël, il vomit du noir assassin. Il tue la mer et avec elle tout ce qui vivait dans son sein. Il endeuille à jamais les plages, il désespère les marins. Empoisonne les coquillages et les oiseaux mourront demain. On me dira, reste à ta place, occupe-toi donc des enfants. Avec quoi veut-on qu'on les fasse, ces chansons de vagues et de vent? Avec quoi veut-on qu'on les berce, tous ces enfants désenchantés? Quand je pense à ce qu'on leur laisse, je n'ose plus les regarder. Un bateau s'est cassé, Carole, un bateau empoisonne tout, et les beaux poèmes s'envolent. On vit dans un monde de fous. Demain, ça en sera un autre. Et pourquoi ça s'arrêterait? On se repassera la faute, la belle jambe que ça nous fait. Un bateau s'est cassé, Grégoire, on veut déjà nous rassurer. Et pourtant, c'est la mer à boire et puis à en crever. Un bateau, mais demain, Karine, puisqu'un bateau a pu faillir. Demain, ça sera une usine qui sera la mort à venir. On me dira, vas-tu te taire, mais demain tout sera foutu. Qu'auront-ils fait de notre terre? Nous n'irons plus, nous n'irons plus. Nous n'irons plus au bois les mômes. Tous les arbres sont défeuillés. Restera-t-il quelques fantômes pour dire nous avons été? Un bateau s'est cassé, Armel, et nous irons sur les rochers avec nos seaux, avec nos pelles, comme si rien n'avait changé. Mais ça ne sera pas du sable, nous n'y ferons pas de château dans tout ce noir irréparable. L'espoir s'enlisera bientôt, tout comme crèvent les
oiseaux. Elle portait un genre de lavalière et ça faisait sourire les gamins du quartier. Elle promenait du côté de d'enfer sa façade de cire sur un vieux clou usé. Elle donnait des leçons de piano. Elle aurait pu donner des leçons de tendresse. Professeur de fragile et de beau, elle ne parlait jamais, mais d'une simple caresse. Sur le piano, elle osait quelques mots. On disait qu'elle avait eu, au rien, à peine un coup au cœur, un tout petit Béguin, au bon vieux temps d'avant mélancolie, où l'on voyait encore si elle était jolie, avec un acteur de cinéma, un faux Valentino, une doublure de doublure. Elle restait des heures comme ça. Mon Dieu, qu'il était beau, que la parole est dure. Mais le piano, lui, osait quelques mots. Et quand l'hiver a tamisé ses yeux, a ralenti son cœur, enneigé ses cheveux, et quand la terre qui se rapprochait d'elle s'est faite mélodie pour lui parler du ciel, quand elle sentit sa vie la quitter, elle n'a rien regretté, pas même sa musique. Elle a joué le tout dernier soupir, le tout dernier silence d'une page classique. Elle n'a pas su que son piano s'est tué.
Pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être, tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis dans d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise, et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Eh bien, j'espère qu'après les meilleurs d'Anne Sylvestre, vous me pardonnerez l'oubli du dictionnaire. On va continuer, après cette émission, à écouter d'autres chansons d'Anne Sylvestre et quelques-unes d'Alice Donna. Je vous dis à samedi prochain, à peut-être même à vendredi. Je vous ferai un petit podcast un peu cautérisé, un peu scotché, un peu balafré de toutes ces hésitations. Et ben c'est les... Vous avez eu le direct, je vais essayer d'arranger ça au montage, mais sans garantie du gouvernement. Voilà, on va retourner à Alice Donna, que j'aimais bien et que j'aime toujours.
Ta main a glissé de la mienne. Je te regarde t'endormir. On dirait l'innocence même, mais j'ai du mal à m'attendrir. Tu es là, au chaud dans tes rêves, avec ton compte de plaisir. Mes cheveux ne ruissellent pas, tes caresses. Est-ce ta faute? Est-ce la mienne? Je n'ai jamais crié d'amour. Jamais mon corps ne se déchaîne, qui le délivrera un jour. Je voudrais que quelqu'un m'emmène de l'autre côté de l'amour. Mes cheveux ne ruissellent pas, tes caresses me laissent de bois. Tu t'envoles, moi je bats de l'aile. Je m'arrête en sixième. Comme le Messie, qu'un passant passe par ma vie. Où est-il? Dire qu'il se promène, qu'il m'emporte du sixième ciel vers le
écouter et méditer sans modération.